Végisible.
Végisible.
C'est parti.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de reprendre le micro de Visible pour cette nouvelle saison. Pour cette année, je vais essayer de vous proposer plus de contenu, plus de variété. En tout cas, je vais tenter certainement de nouvelles choses. Et pour commencer cette saison, je suis hyper content de recevoir mon invité. C'est à mes yeux une étoile montante du stand-up, voire l'étoile montante du stand-up, à vous faire sortir des larmes de rire. La preuve, s'il en fallait une, que l'on peut rire de tout. De l'identité, du genre des hétéros et même des chinos beiges. Mais ça, on va en parler plus tard, en fin d'émission. Bienvenue, Lou Trottignon.
Salut.
Comment ça va ?
Écoute, ça va bien. Je reviens de vacances. Je reprends la scène doucement et je suis très, très contente d'être ici.
Ah bah moi, je suis ravi. Tu le sais, je te l'ai dit en off.
Oui.
Est-ce que cette présentation te plaît ?
Franchement, ouais, je ne sais pas si je suis the étoile, mais j'aime bien être parmi les étoiles du stand-up.
Tu présentes Mérou à la nouvelle scène tous les jeudis de septembre à décembre et en tournée, une heure sur scène où tu parles de tout. Comment résumer ton show sans le spoiler ?
Je pense que tu peux dire que c'est un spectacle qui parle de mon histoire de transition. C'est parti du moment où je me suis rendu compte que j'étais pas une meuf, mais je savais pas ce que j'étais d'autre que ça. Et du coup, c'est toute l'histoire de ma recherche, de mes questions, de mes doutes. Et en fait, je parle beaucoup du fait que c'est OK de pas savoir. Et dedans, il y a plein d'autres choses. Incroyable.
C'est OK, tu le dis souvent dans le spectacle, j'ai le sentiment.
Ah ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que je dis beaucoup, c'est OK. J'ai très envie de rassurer les gens.
Soit tu le dis beaucoup, soit on s'en rappelle et c'est une force, je trouve. Ouais, le c'est OK, là, c'est d'un coup, ça m'a rappelé un peu.
Mais c'est un tic de langage.
Tic de langage politique.
Je sais pas, mais des fois, je parle à mes relations amoureuses et je suis là, c'est OK. Tu vois, c'est dans n'importe quoi.
Alors, première question. Question pour entrer dans le vif du sujet, comment toi t'es venue à l'écriture ou à l'humour ?
Moi, à l'écriture, à l'humour. Moi j'ai fait 10 ans de théâtre amateur en fait, quand j'étais enfant, de mes 11 ans à mes 20 ans quoi. Et j'ai toujours aimé la scène, et j'ai toujours aimé le stand-up. Genre je connaissais par cœur tous les DVD de Jamel Comedy Club, j'organisais des sketchs chez moi. Non, c'était gênant.
En public ?
Ouais. En public.
Ça a été filmé ?
Non, voyons. Je pense qu'on peut retrouver les films. Mais c'était gênant, quoi. C'était gênant. Et en fait, j'ai pris du temps avant de me rendre compte que moi, j'avais la possibilité de faire du stand-up parce que je voyais personne qui me ressemblait. Très peu. Je voyais Charlie Soignon en France. Mais sinon, c'est tout, en vrai. Après, aux États-Unis, il y avait plus de monde. Et du coup, j'ai pris du temps avant de me rendre compte que moi aussi, je pouvais monter sur scène. Et c'est grâce à Tani, dont j'ai vu une petite vidéo quand elle commençait, où elle monte sur scène. Sa première phase, c'est « Bonjour, je suis lesbienne, je suis noire. » Et il n'y a pas de... Tu vois, on ne passe pas par quatre chemins. Et les gens sont là « Yes !» Et du coup, je me suis dit « Ah, OK, on peut monter sur scène, on peut dire ce qu'on est. » Et là, j'ai tenté.
Oui, parce qu'au final, il n'y a pas de représentation de personnes non-binaires ou trans.
Ouais.
Très peu de lesbiennes, un peu plus de gays.
Il y a plus de mecs cis gays, oui, bah ça c'est sûr. Et encore, il n'y en a pas des masses, tu vois. Mais en représentation LGBT, il y en a très peu. Non-binarité, bah maintenant il y a Charlie Soignon. Mais trans, je crois que je suis le premier à faire du stand-up. Mmh. Et je parle de stand-up pur parce que dans l'humour, il y a Océan qui a un one-man show et tout.
Mmh. Il tourne moins, Océan, du coup.
En fait, c'est du one man, donc il tourne moins. Il n'est pas dans les caves des comedy clubs, tu vois. C'est pas le même travail, c'est pas la même rencontre avec le public, enfin d'après moi. Et enfin, c'est totalement différent. Et du coup, il me semble que je suis le premier, ouais, en France.
Bah oui, et c'est surtout les comedy clubs LGBTQIA+. Bah,
il y en a pas. Ouais, il y en a. Il y a des soirées LGBT. Organisé, il y en a même eu au Jamel, je crois qu'il n'y en a pas au Paname. Enfin, je ne sais pas si je peux dire les noms de Comedy Club. Il y a des soirées, mais sinon, il n'y avait que le Barbès Comedy Club qui, du coup, a fermé. Maintenant, et la scène Barbès, c'est complètement différent. Et c'était le seul Comedy Club qui faisait vraiment attention à l'inclusivité.
C'était celui de Charlie Soignon.
C'était celui de Charlie, ouais, qui m'a vraiment aidé à me lancer aussi, quoi. Donc, c'est très dur. Alors, nous, on a créé des endroits safe, des Comedy Club avec Tani, Noam Sinso, Mao Drama. On a un petit crew où on crée des choses, mais c'est pas facile, quoi.
Et du coup, alors justement, tu dis qu'il n'y a pas de représentation, et en même temps, dans ton écriture, qui t'a influencé ?
Bah, en fait, j'ai eu des influences en termes d'humour, mais alors des, qui parlent pas du tout des trucs LGBT. Ouais. Enfin, moi, j'ai, par exemple, j'ai une référence que j'aime beaucoup qui s'appelle James Acaster, qui est un anglais qui est complètement fucked up, c'est complètement absurde ce qu'il fait et j'adore. Y a toujours Anna Gatsby aussi qui a quand même genre, fait Nanette et qui a fait un spectacle et qui a dit en fait j'en ai marre de me moquer de moi, je veux vraiment parler des choses. Tout ça, ça m'a inspirée, mais j'ai justement, j'étais beaucoup confrontée. Tous mes sujets, je voyais personne en parler, même jusqu'au BDSM, parce que je parle de BDSM, je voyais personne en parler positivement du BDSM. Ou le travail du sexe dont je parle aussi.
Ou des identités.
Des identités de genre et tout. Du coup, j'ai dû tout trouver. Donc, c'est un cadeau parce que du coup, j'ai la possibilité de faire toutes les premières blagues, même faciles, qui font rire. Mais aussi, j'ai peu de modèles, quoi. Ça, c'est une grande difficulté, ouais.
Bah, dans ton humour, tu prouves qu'on peut rire de tout sans être désobligeant. Même avec les hétéros, hein, tu pourrais y aller plus.
Bah oui, mais on me l'a dit, mais tu sais que j'ai eu vraiment des retours, enfin des trucs de. On m'a dit quand même, tu fais tout un spectacle où tu ouvres, tu dis qu'on peut être qui on veut et que les étiquettes ça compte pas, alors que c'est pas vraiment ce que je dis. Mais en tout cas, qu'on peut être qui on veut et tu critiques les hétéros et en fait. Et alors que franchement, j'y vais doucement parce que j'ai des trucs quand je suis à mes scènes queer, oh là là. Là, je clash. Parce qu'on est entre nous, on a besoin de ça. Et en fait, je clash pas les hétéros, je clash pas les personnes qui sont hétéros. Je clash l'hétéronormativité qui nous fait tellement chier tous les jours. C'est bon, on peut rire deux secondes de ça, quoi.
Tu parles des identités queer, des identités trans, de la non-binarité, du genre. Ça t'a semblé évident de suite ?
Pas du tout.
C'est vrai ?
Ouais, en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé le stand-up, j'étais persuadée que j'étais une meuf cis-hétéro. Alors que même c'est Tani qui m'avait lancé dedans. Non, mais moi, je vois rien, laisse tomber. J'étais persuadée. Du coup, mon premier sketch, tout premier, c'était « Ouais, tout le monde pense que je suis lesbienne, je vois pas pourquoi, et genre, je me défends dessus et tout. » Et il y a une meuf qui a vu ce sketch et qui a eu un crush, et du coup, on est sortis ensemble. Et du coup, vraiment, j'ai dû réécrire tous mes sketchs. J'étais dégoûtée. J'étais, ah, putain, j'avais trouvé mes premières punchlines et j'ai dû tout réécrire. Et du coup, déjà, j'ai dû assumer par rapport à ma sexualité qu'en fait, j'aimais tout le monde. Et après, la transition, c'est marrant parce que je crois que je l'ai dit sur scène avant de m'en rendre compte vraiment pour moi, quoi. Ah oui. J'ai eu besoin de le dire sur scène, de le matérialiser pour me dire, mais en fait, quand je le dis, ça fait tellement sens que ça, c'est ce que je suis. Mais tu vois un peu, enfin, les coming out, ça vient pas... Enfin, pour moi, en tout cas, c'est genre, je le sais, c'est en derrière de ma tête, mais avant de prononcer le mot et de dire « je suis », ça.
Il fallait passer par la scène.
Pour moi, ouais.
Et c'est ouf parce que bah, la scène, c'est quand même l'exposition, c'est exposer son corps.
Ouais.
C'est exposer soi face à des gens.
Ouais, mais tu peux pas mentir. Tout le monde sait si tu mens. Enfin, moi, je le sais quand je mens. Ouais. Je sais quand le public, il sent tout. Et toi, tu sens tout aussi. Et du coup, j'ai eu besoin de tester, je pense, un peu, de dire je suis trans. Et en fait, ça faisait sens pour moi. Et j'ai senti un soulagement dans certaines personnes du public auxquelles je ne m'attendais pas. Et du coup, j'étais là, putain, juste dire le mot, c'est un truc de dingue, quoi. Bon, après, il faut faire des blagues quand même, parce que sinon, je fais une heure de spectacle où je dis trans. Ça serait trop bien.
Et tu fais des blagues à la minute. Hein.
Je oui, quand même. Merci.
Est-ce que, je parlais de l'exposition du corps sur scène,
ouais.
Justement, dans une transidentité. Est-ce que la scène t'a changé ?
Physiquement ?
Ou mentalement, comment ça marche entre l'esprit, le corps et être sur un plateau face à des gens à raconter ce que tu racontes? Est-ce qu'il y a une évolution?
Bah, c'est une trop bonne question. Moi, déjà, j'ai dû appréhender des changements corporels rapides parce que j'ai commencé mon spectacle, j'ai commencé la testostérone. Donc, ouais, non, mais n'importe quoi, moi. Mon spectacle est trans avant moi, de toute façon. Et du coup, ouais, j'ai commencé la testostérone en même temps que mon spectacle. Et du coup, on se regarde tout le temps en vidéo pour travailler. Donc, j'ai dû appréhender de ne pas me reconnaître pendant longtemps, en changeant très vite. C'est comme si la transition, c'est pas toute ma vie, la transition, j'ai d'autres trucs, mais c'est un objet très important dans ma vie. Et le spectacle en fait partie. Et du coup, ouais, on évolue un peu ensemble, comme ça. C'est un peu un pote. C'est chelou. Mon spectacle est une personne. Pas du tout.
Bah, c'est thérapeutique.
Ouais, c'est thérapeutique. Et puis, c'est un objet d'art, en fait. Donc, c'est comme si je construisais une sculpture pendant un an et que je la faisais à mon image. Donc, ouais, ça change des choses. Après, je ne sais pas si ça répond directement à ta question, mais moi, il y a un truc qui m'a marqué dans l'appréhension de mon corps. c'est qu'au début, quand je montais sur scène, je bougeais vachement. Je faisais des gestes, énormément de gestes, pour compenser la peur qu'on ne m'écoute pas, pour compenser le fait que je sois très petit, parce que j'avais très peur qu'on ne m'écoute pas parce que je suis tout petit. Et parce que j'avais une voix féminine et je n'aimais pas ça. Donc du coup, voilà, j'ai beaucoup compensé en bougeant. Et à un moment, il y a un metteur en scène avec qui j'ai travaillé qui m'a dit « Arrête de bouger, genre pose-toi et passe tout dans la voix. » Et ça a tout changé. Genre vraiment, j'ai pris un niveau d'un coup. Je pense que même ma carrière a pris un niveau parce que les gens étaient là « Waouh, cette personne est ancrée. » Et ça m'a appris ça, je crois. T'as pas besoin de faire 1000 artifices quand ton sujet il est déjà trans. Plus t'es ancré, plus t'es là, plus tu mets des silences et plus ça crée quelque chose. Donc, moi, ce que je fais, il y a des gens qui bougent et ça leur va trop bien. Donc, je sais pas, c'est pas trop lié à la transition, c'est plus lié à l'assurance de son propos. Mais et après, il y a eu d'autres trucs à appréhender. Le plus dur, je crois que c'était ma voix qui, du coup, changeait, qui faisait à chaque fois. Et après, je sais pas, c'est tellement chez moi sur scène que...
Et ta toute première fois sur un plateau, comment ça s'est passé ?
Oh, c'était horrible. Enfin, j'ai cartonné. J'ai cartonné, mais du coup, c'était avec un sketch où je disais « Ouais, tout le monde pense que je suis lesbienne alors que je ne le suis pas. » Donc, je commençais comme ça. Et du coup, ça faisait rire parce qu'évidemment, je ressemblais vraiment à une gouine, quoi. Du coup, j'ai commencé là. C'était un petit plateau, un open mic. Et je cartonne, ça marche, mes blagues marchent, je suis content, machin. Mais tout de suite, en fait, le plateau est tenu par un mec qui me fait des retours en disant « là, t'as tort, fallait pas dire ça comme ça », qui me fait des trucs de « t'es pas mal drôle pour une meuf ». J'étais « waouh ». Donc
sérieux ?
Ouais, direct. Direct un truc et j'étais dégoûtée. Ouais, vraiment. Et j'ai continué, mais j'ai failli arrêter.
J'étais à cause de ça, en fait.
Bon, ouais, j'étais là « c'est quoi ce milieu de merde ?» Enfin,
j'ai pas ma place.
J'ai pas ma place. Ouais, c'était vraiment ça, j'ai pas ma place. Et après, Tani a fait un atelier d'écriture pendant une queer week, donc un festival queer. Et j'y suis allée toujours en pensant que j'étais une meuf hétéro, genre enfin, n'importe quoi.
Avec mais tu vas quand même, en fait.
J'y vais quand même avec un mulet et tout. Non, mais n'importe quoi. Tous les signes. Non, mais je te jure. Et du coup, j'y suis allée. Et puis, je fais un premier sketch sur le travail du sexe, qui est un sujet important pour moi. Et le soir, on a la possibilité de passer sur scène. Et c'est la première fois que là, je me retrouve devant un public qui applaudit, qui rigole, qui a envie d'écouter ce que j'ai à dire. Et où tout de suite, Tani, Mao, Noam, je les ai rencontrés ce soir-là, m'ont dit « on va t'aider ».
Ah, c'est cool.
Ouais, ouais, vraiment. Sans eux, je serais pas où j'en suis, quoi. Franchement.
Et à quel moment tu t'es dit « je suis pas une meuf lesbienne
» Putain. Oh là là, quand je suis sortie avec un mec, j'en sais rien. Bah, en fait, ça a pas fait écho en moi, le mot lesbienne, je crois. C'est une partie de ma sexualité. Mais ça a pas. J'ai voulu exprimer quelque chose d'ordre de je ne suis pas hétéro. Du coup, j'ai dit lesbienne, puis après, j'ai dit bi, puis après, j'ai dit pan. Et avant de comprendre qu'en fait, ce qui comptait vraiment pour moi, c'était en fait, je suis trans, quoi. Et la sexualité, en fait, je m'en fous un peu. Enfin, elle est très fluide.
On parle d'identité, on parle de. Oui, la sexualité.
Oui, voilà, c'est ça, en fait. Moi, ce qui me posait question, c'était mon identité, comment j'évolue dans le monde. Ma sexualité, pour moi, c'est perso, c'est autre chose. Mais ça m'a pris du temps et je découvre encore plein de choses que je sais pas si j'oserais dire dans mon spectacle encore. Je sais pas si j'en comprendrais.
Ça sent le Mérou 2.
Ouais, un truc, je sais pas si je peux le dire là, mais un truc que je découvre vachement qui en fait, je savais que j'étais pas hétéro, mais je savais que j'aimais les garçons d'une certaine manière. Et du coup, en transitionnant, je me rends compte que je me sens hyper proche de l'identité gay, de l'identité PD, que c'est ce que je suis. Et c'est très difficile à expliquer quand t'es trans, parce que j'ai un peu l'impression d'arriver dans un monde où moi j'ai pas vécu toutes les oppressions des personnes PD et gays. Et en même temps, c'est une culture avec laquelle je me sens hyper proche, une identité que je comprends de ouf. Et comment t'arrives quand t'es un petit mec trans non-binaire dans ce monde-là? Et pourtant, si je devais genre vraiment dire une identité, pour moi, ce serait PD, quoi. Mais ça me fait ultra peur. Et je pense que dans mon spectacle, c'est pas encore le moment de l'exprimer. Ouais.
Il y a eu Gothmic, drag queen.
Oui, ouais. Oh, je l'adore.
Mais ouais. Tellement.
Et ça m'a aidé de ouf. Ouais.
Mais et puis pour le coup, donc c'est un homme trans, je crois qu'il est gay.
Ouais, un homme trans gay.
Et qui fait du drag. Et du coup, en termes de genre et d'identité,
ouais,
genre,
c'est ça.
En fait, on a besoin de personnes comme ça pour aller encore plus loin. Pour...
Ouais, mais ça fait peur parce que déjà, il faut faire comprendre. Enfin, mon spectacle, il n'est pas que pour les personnes queer, quoi.
Ouais.
Donc déjà, il faut remettre toutes les bases. si je commence à dire que peut-être, enfin, tu vois, on va peut-être faire par étapes, tu vois.
Alors, il n'est pas pour les personnes queer, et pourtant, la nouvelle scène, c'est un public, j'ai eu l'impression, ça reste quand même un public, en tant que personne queer, on a besoin de voir des artistes queer. Parce que voilà, c'est pas le même rapport à l'humour. Et quand même, il y a un public. J'ai l'impression que ça réveille, que ce soit des personnes comme Tani, toi, ça réveille quand même un public qui a besoin aussi d'humour.
Ouais, tout un public qui s'est ostracisé, on dit pas ça, qui s'est ostracisé des salles parce que à force d'aller dans des plateaux, puis il y a une blague homophobe à tous les coups, une blague raciste, bah t'y vas plus.
Bah tu t'en vas, ou misogyne.
Misogyne, oui, de base. Revenons à la base. Mais je sais plus ce qu'on disait du coup.
On parlait
du public,
du public queer en fait, et de l'importance des milieux queer, et surtout aussi, toi en tant qu'artiste queer, l'importance des scènes queer en fait.
Ouais, de ouf. Mais en vrai, mon public, la base de mon public est queer, et sans les queers, j'en serais pas là non plus. Enfin, il y a tellement de trucs qui font que j'en suis là où j'en suis. Et en fait, le public queer, comme il y a tellement besoin et il y a très peu d'offres, parce qu'il y a quoi ? Je crois qu'il y a genre 3-4 spectacles, 5 allées à Paris qui parlent du fait d'être queer en stand-up, c'est tout. Et du coup, il y a tellement peu d'offres que du coup, les gens reviennent, les gens ramènent. Et en fait, grâce à ça et à cette fidélité, on montre aux salles qu'en fait, on remplit. Parce que moi, le nombre de fois quand j'ai commencé, où on m'a dit « c'est cool, hein, c'est drôle, mais c'est trop de niche, jamais tu auras des gens dans ta salle ». J'ai lancé ma com, ça a été rempli en 24 heures. J'étais là,
Putain, c'est cool.
Ouais, je leur ai montré. On m'a dit ça tellement de fois. Et même après avoir été rempli, hein, j'étais rempli pendant 6 mois à guichet fermé à la petite loge quand j'ai commencé. C'était ouf. Hein, c'est un truc qui arrive très, très peu. Et j'étais trop content. Mais ça a été, même jusqu'au bout, on m'a dit ah, mais c'était potes dans la salle. Mais tu crois que moi, j'ai 600 potes déjà. Enfin, je suis anxieuse sociale, j'ai pas 600 potes. Donc, ouais, on me l'a dit. Beaucoup, on me le dit encore, des grandes productions qui disent bah non, on ne prend pas, ça va pas parler aux gens.
Alors que ça parle à tout le monde en fait.
Mais non, mais c'est les gens, pas pour tout le monde, pas pour des gros trucs que je citerai pas. Où vraiment, on m'a dit non, ça plaira pas quoi. Mais c'est parce que leur public à eux est principalement composé de mecs cis blancs, hétéros, riches, enfin tout y quanti quoi.
Alors du coup, moi, je voudrais revenir à tes débuts, t'as l'écriture, tu montes sur scène, t'as cette queer week avec Tani. Et à une fois que comment tu fais ? C'est-à-dire que quand tu te lances, tu cherches une salle, on te dit, bon, souvent non, et quand on te dit oui, c'est toi qui fais ta com, tu fais tout de A à Z ?
En fait, quand tu commences, t'as des open mic auxquels tout le monde peut s'inscrire, mais souvent, il faut ramener 2-3 potes. Comme D'accord. ça, ça leur fait du public. Donc, tu commences comme ça, tu as 3 minutes sur scène, personne t'écoute, personne te regarde. Mais,
c'est dur.
C'est dur. C'est une école de ouf. Et il faut y aller jusqu'à ce que telle personne. Déjà, tu prends du niveau. Ensuite, telle personne te dise ah putain, j'ai kiffé, viens, t'essayes sur mon plateau. Et puis machin. Mais moi, je suis vraiment passée par les plateaux féministes, notamment le Good Girls Comedy Club, qui est tenu par Alicia Cetou, qui est à Châtelet, genre tous les dimanches. Elle m'a trop aidée, elle m'a mis plusieurs fois des 5 minutes pour que j'aie ma place. Mais ce qui m'a aidée, franchement, c'est le Barbès Comedy Club. Parce que j'ai fait un 3 minutes là-bas, Charlie était là, a dit ok, tu vas venir remplacer des gens. Elle ne m'a pas lâchée une seule seconde. Quoi.
Ah, c'est cool.
Ouais. Donc ça m'a aidée. Et aussi, quand même, j'ai fait une académie d'humour. Alors, c'est une formation qui existe depuis pas très longtemps, depuis 2-3 ans, je crois que c'est la 3e année, et nous on était dans la première promo pendant 1 an, on rencontre des intervenants, de l'humour, de l'écriture, et voilà, donc ça forme vraiment beaucoup quoi.
Oui, parce que t'as des retours en direct.
C'est ça, t'as des retours en direct, c'est un vrai labo. Après, c'est une académie, si tu taffes pas, les portes vont pas s'ouvrir toutes seules. C'est vraiment tout ce que j'ai eu en termes d'opportunités, c'est quand même moi qui suis allée chercher. Mais j'avais derrière toute cette formation qui m'aidait. Donc ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue de pouvoir faire ça.
Et du coup, de 3 minutes, comment tu passes de 3 minutes à 1 heure ?
Alors, il y a des étapes. Doucement. Non, mais au début, tu fais des 3 minutes. Ensuite, tu fais des 5 minutes. Ça marche souvent comme ça. Ensuite, tu fais des 10 minutes. Ensuite, tu fais ton premier 20 minutes. Enfin, tu vois, c'est vraiment ta première demi-heure. C'est quelque chose, la première demi-heure, parce que t'as rarement tenu sur scène aussi longtemps avec ton propos, tes blagues de A à Z. Et après, donc moi, je suis passée par ces étapes. J'ai tenté des 30 minutes, des 20 minutes, machin. Et à un moment, avec l'Académie d'humour, du coup, ils m'ont donné l'opportunité de faire une heure à la petite loge hors programme, quoi. Et du coup, j'ai lancé ça et voilà, c'était ma première heure. J'avais pas le choix.
Je me suis mis. Hyper long, en fait.
Ouais, c'était hyper long, mais en fait, j'avais plein de trucs à dire. Tout n'était pas bon. Hein,
ça mais... t'a pas fait peur. Tu t'es dit, OK, on y va.
Non, moi, j'ai besoin de deadline hardcore pour me dire, voilà, là, j'ai une heure, sinon je travaille pas, sinon je fantasme pendant des années. Non, c'est vrai.
Et alors, je le disais, donc maintenant, tu es à la nouvelle scène.
Ouais.
Alors, souvent avec un public ouvert à la cause, en fait.
Oui, principalement LGBT, allié. Ouais.
Alors, je vais encore me faire taper dessus à la suite de cette question. Ne m'en voulez pas. Sans faire de généralité, on a besoin d'aller voir ces spectacles, mais tu tournes aussi en région.
Ouais.
En dehors de ces endroits de grosses villes et tout, comment t'es accueillie là-bas ?
Je ne sais pas si j'ai fait encore des trop petites villes, parce que quand même à Nantes, ça a resté des personnes LGBT principalement aussi, qui amènent des personnes pas forcément LGBT, mais Nantes, je crois que la scène que j'ai fait où il y avait le moins de personnes LGBT, c'était à Mondeville. C'était il y a longtemps, je pense il y a presque un an. Mondeville, on m'avait invité parce qu'il aimait bien mon spectacle. Et je sais pas, tout ça a été hyper bien reçu. En fait, je crois que les gens... S'ils voient le sujet, ils ont un peu peur. Mais à l'époque, je disais, mon sujet n'était pas ouvertement sur la transidentité. Mmh. Je le disais sur scène, mais ce n'était pas ouvertement le sujet du spectacle. Et en fait, quand j'arrive sur scène et que je suis trans avec mon petit sourire et ma sympathie que je sais que j'ai, ça les rassure. Il y a un truc, ils ont l'impression de « Ah, OK, c'est pas un monstre quelque part, le trans, tu vois. C'est quelqu'un qui nous parle. »
Un bras, deux jambes, une tête.
Ouais, c'est ça, quoi. Qui est sympa, qui aussi s'inquiète, sait pas qui il est. Donc souvent, c'est assez bien reçu. Ouais, c'est assez bien reçu.
T'as pas fait des festivals dans des endroits un peu...
Si, je suis allée dans... J'ai fait le Printemps du Rire. Donc là, le principe du Printemps du Rire, c'est qu'on fait des tournées, on fait des 20 minutes dans plusieurs villages, pour le coup.
Ah, c'est des villages, carrément.
Ouais, ouais. Et là, on est vraiment allé dans un village, je sais plus où c'était, Pointiste-Rivière. Et on était dans une salle de fête, enfin vraiment des conditions avec des enfants qui crient des trucs que des gens du village et des villages alentours, tu vois. Enfin, vraiment, moi, mes deux sujets, c'était trans et BDSM. Je suis cuit. Enfin, jamais.
Mais t'as eu l'appréhension, du coup.
Bah ouais, j'étais là, mais en fait, ça va jamais passer. Enfin, je vais faire mon truc, on va me regarder trop bizarrement. Et du coup, j'y suis allée en me disant, bon, bah, parle-leur vraiment. Enfin, ouais. En fait, je me suis dit, mais c'est con d'avoir des a priori sur eux. Enfin, je pense qu'ils ont des a priori sur moi, mais c'est un a priori sur eux. Qu'ils aient des a priori sur moi, tu vois ce que je veux dire.
Oui,
c'est méta a priori.
Je vois très bien.
Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'y vais. Et il y avait des enfants devant. Et j'ai vraiment dit, je leur ai posé la question, je leur ai dit, vous me voyez comme un mec ou une meuf? Parce que des fois, on ne sait pas. Et les enfants étaient là, les deux. J'étais là, super. Alors, ils ont compris. C'était trop bien. Et du coup, je les ai eus tout de suite. Et même en parlant de BDSM et tout, j'ai eu plein de retours. C'était le plus touchant, je crois. Vraiment, les gens étaient trop contents. Ils m'ont dit, mais en fait, on en a marre qu'on nous parle comme des cons.
Ouais.
Comme si on ne savait pas ce que c'était la transidentité. Enfin, des fois, on est énervé contre la transidentité parce qu'il y a des personnes... je parle, c'est dans leur bouche. Il y a des personnes woke qui nous traitent comme si on était débiles. Donc ouais, on est contre. Mais on est contre qu'on nous parle comme ça, tu vois. Mmh. Et on n'a pas envie de comprendre plus loin parce que... Et j'ai grave compris un truc, ouais.
Oui, parce que du coup, ouais. C'est très politique ce que tu fais.
Ah bah oui, bah ça... ouais. Oui, c'est très politique.
Parce qu'après, en tout cas, la nouvelle scène, moi, quand je suis allée te voir, tu dis aux gens, si vous voulez, on peut en discuter
ouais.
Après. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait ?
À demander aux gens de discuter ouais. Après ? Je sais pas, je crois que c'est mon people pleasing. C'est pas du tout. En fait, c'est... À chaque fois, je dis ça parce que j'aime bien rencontrer les gens, leur parler après, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus, faut que j'apprenne à mettre mes limites un peu.
C'est aussi là-dessus. Des personnes trans qui viennent te parler.
Ouais, et c'est compliqué parce qu'il y a des personnes trans perdues qui viennent me parler, qui me demandent même des conseils par rapport à où faire cette opération, machin. Et en fait, au début, je voulais aider tout le monde. Et en fait, c'est pas mon travail, c'est pas possible. Donc là, j'aimerais bien mettre en place, à la sortie de mon spectacle, des prospectus d'associations ouais. Qui sont formées pour ça, tu vois. Mais bon, en vrai, je regarde pas parce que j'ai pu parler à des... Il y avait des parents de personnes trans qui sont venus avec leur enfant, du coup, en mode, tiens, on tape ça. Et on a parlé une heure après, et c'était hyper touchant, quoi. Des parents qui étaient en train de découvrir tout ça et qui ça leur a fait du bien de rire avec leur enfant, parce que c'est un peu tendu des fois à la maison, de tout ça.
De voir une personne trans sur scène.
Ouais, oui, c'est vrai. J'oublie que je suis là. Sans obstacle, il n'y a que moi, je suis là, oui, c'est vrai, excusez-moi, je suis là.
Oui, parce que, en fait, tu le disais au tout début, mais des personnes trans dans l'humour, il n'y a pas.
Il commence à y en avoir.
Tu fais partie des personnes qui ouvrent les portes, et tu fais partie des personnes qui sont des rôles modèles.
Ouais, c'est vrai. Ça fait trop peur, mais ouais. Mais
j'imagine que la question fait peur, mais en même temps, t'en as conscience.
Je commence à en avoir conscience là un peu. Bah en fait, après que ma vidéo du Pride Comedy Show soit sortie sur le Mérou, je m'attendais pas. C'est pas un buzz de ouf, mais pour moi, c'est beaucoup parce que quand même, je débute. Et du coup, c'était quand même un gros buzz. Et là, je vais dans d'autres villes faire des festivals queer pour le coup, dans des assos queer. Et en fait, les gens, j'arrive sur scène, ils disent « Ah, le Mérou !» Enfin, en fait, les queers se passent entre eux, la vidéo. Et je voyais des commentaires trop touchants, en mode « C'est la première fois que je vois quelqu'un qui me ressemble sur scène. » J'étais « Waouh !» Enfin, j'ai fait un truc, quoi.
Ah oui ?
Ouais, mais c'est trop cool, c'est trop bien. Non, en vrai, je m'en rends compte et c'est ouf. Après, j'espère qu'il y en aura d'autres, quoi.
Il faut un premier ?
Ouais. Je ne m'attendais pas. Moi, je ne savais pas que j'allais être trans, déjà, donc...
Oui.
Il y avait des indices.
Un peu des indices dans ton parcours, mais je sais pas. Je plein de gens l'ont vu avant toi. En fait.
Mais c'est tout le temps ça, non? Je trouve à chaque fois que tu fais un coming out, il y a tout le temps un truc, t'es le dernier à le savoir, quoi.
Mais du coup, dis-moi si c'est trop personnel. Non, mais on parle de coming out. T'es un bingo des coming out. Ça se passe, t'en as fait combien?
Oh là là, je sais même plus si je peux les compter. J'ai fait un lesbien. J'ai l'impression qu'on parle de yaourt alors, le lesbien. Non, j'en ai fait coming out lesbien, coming out bi, coming out pan, coming out queer, coming out non-binaire, coming out trans, qui était autre chose. Je suis au courant que les personnes non-binaires font partie des personnes trans, puisque je suis une personne trans non-binaire. Mais c'était quand même autre chose de dire le mot trans. Parce que non-binaire, j'avais l'impression que c'était plus à l'intérieur de moi, que je pouvais le garder secret si j'avais envie. Quand tu passes vraiment dans une transition sociale et médicale, ce qui est mon cas, c'est pas du tout une obligation, mais c'est mon cas. Ouais, c'est autre chose de dire trans.
Une sorte d'affirmation ou une sorte de.
T'as pas le choix.
Un déclic, ouais.
T'as l'air hors norme. Enfin, peut-être je me rends pas compte. Je sais que des fois je peux passer comme meuf ou comme jeune garçon. Bah, si je vais à la plage avec mes cicatrices, je ne fais plus du tout partie de la norme. Enfin, il y a des trucs qui sont...
Oui, cicatrices, parce qu'en fait, tu as fait une mamectomie.
Oui, j'ai fait une mamectomie. Oui, je n'ai pas des cicatrices comme ça. C'est pas genre, tu ne dis pas, t'es trans, c'est Harry Potter. C'est une cicatrice qui apparaît. Pardon.
C'est quoi l'après de la mamectomie, du coup?
Bah, je suis en plein dedans. Je l'ai fait fin juin.
D'accord.
Donc, j'ai eu un mois de convalescence. Des fois, je m'en rends compte encore. Je trouve ça ouf. Du jour au lendemain, j'ai plus de seins, quoi. Enfin, je ne m'étais pas rendu compte que c'était un truc dont j'avais à ce point besoin avant de la faire. Avant, j'étais là, je la fais, je ne la fais pas. Peut-être je peux vivre avec cet inconfort.
Oui, pour toi, c'est une partie de ton corps qui était synonyme d'inconfort.
Bah, plus qu'inconfort, maintenant, je m'en rends compte. C'était de la dysphorie, de la difficulté à sortir de chez moi, de la difficulté à dater aussi. Parce que même si la personne est hyper compréhensive, bah toi, tu as un truc sur ton corps, tu l'aimes pas, quoi. Et c'est tellement lié, en plus, les seins, symboliquement, dans la société, c'est tellement lié à la féminité que, du coup, c'était trop violent, quoi. Et du coup, tu mets des binders tous les jours, du coup, j'arrivais pas à respirer, t'as chaud, donc tu sors pas quand t'as trop chaud. Enfin, c'est un business, ce truc. Et quand je les ai plus, j'étais là, waouh, il y a une charge mentale qui s'est enlevée, quoi. Ça a fait fou. Et je pense que c'est ça, l'après. Genre là, tout à l'heure, je suis sortie de chez moi pour te retrouver. Vraiment, j'étais là, mais j'ai oublié un truc. Mais non, mes seins ne sont plus là. Hein, tu vois, j'ai l'impression, tu sais, comme quand tu cherches ton portable. T'es là. Non, non, c'est bon, je n'ai plus de seins, quoi. Donc, en vrai, ça change tout. Et tu vois, bizarrement, je renoue avec ma féminité de ouf. Quand j'avais encore des seins, que je mettais des binders, je mettais plein de t-shirts larges.
D'accord.
Tu as caché un peu, machin. Et maintenant, je m'en fous un peu, quoi. Je suis un peu... Bon, là, j'ai chaud, donc je ne suis pas du tout habillée femme. Mais je retrouve le plaisir d'être habillée en full femme. Parce que je m'en fous. Moi, je sais que je n'ai pas de sang. Tu vois, il y a un truc que vous ne pouvez pas m'atteindre.
Mais c'est fort, hein. C'est fort comme discours à entendre, je trouve.
Ah ouais, c'est vrai.
Bah ouais. Oui, parce que je ne suis pas concernée et je peux tout comprendre, évidemment,
oui, bien sûr.
Identité. Mais la façon dont on parle, comme d'un... La dysphorie, c'est quelque chose que... Bah, et puis, il y a une personne trans qui peut nous raconter ce qu'est une dysphorie. En fait.
Je ne suis pas sûre, moi, je pense que...
Tu penses ?
Mais c'est un peu ce que je dis dans mon spectacle à un moment, c'est qui est né dans le bon corps, en fait. Enfin,
oui.
Pour moi, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent... comprendre ce que c'est de pas aimer une partie de son corps. Après, dans la transidentité, c'est différent parce que c'est vraiment lié à ton identité intrinsèque de cette partie du corps. Ce n'est vraiment pas moi et je ne la supporte pas. Mais je pense que tout le monde peut comprendre. Enfin, y a des gens qui se refont le nez, il y a des gens, enfin, tu vois.
Du coup, comme tu disais en début d'émission, ton spectacle est très lié à ta transition.
Oui.
Est-ce que la Mamec va du coup faire partie? Spectacle.
Ouais.
Spoiler.
Non, mais c'est ce que je dis, c'est que, ben, en vrai, je le dis tout le temps, c'est que mon spectacle, il transitionne en même temps que moi.
Voire avant,
ouais, de ouf, des fois. Bon, là, pour la Mamec, j'en parlais de la Mamec à la fin de mon spectacle. Mais c'est ça qui est touchant aussi, c'est que j'ai. Je savais pas quoi mettre à la fin de mon spectacle pendant longtemps. Et puis, un jour, j'ai eu ce rendez-vous avec le psychiatre. C'est pas du spoil, enfin, je pense que là, je ne dirai pas la blague, mais qui m'a marqué. Et du coup, je vous ai dit à vous, public, pendant plein de représentations, mon rêve, c'est de faire une Mamec. Et puis, paf, fin de saison, j'ai l'opportunité, en plus, une chance de ouf, parce que, en fait, quelqu'un avait annulé. Donc, j'ai une place au dernier moment, j'ai eu 10 jours pour me préparer.
Oula.
Ah ouais, c'était la folie.
Du coup, ces 10 jours, tu savais ?
Alors non, j'étais chez moi en train de paniquer, en train de me dire, ils vont mettre des seins sur le bras, ça va être n'importe quoi, j'avais trop peur. J'avais tellement peur, je te jure. Non, j'hésitais jusqu'à rentrer au bloc, j'hésitais.
Ah ouais ?
Bah en fait, mais je me suis rendu compte que j'hésitais pas parce que je le voulais pas, mais parce qu'on te dit tellement de trucs quand t'es trans, genre c'est une mutilation, pourquoi tu passes par là ? Qu'en fait, ça te rentre dans la tête et tu sais plus si c'est des choses que tu penses vraiment pour toi.
D'accord.
Ou si c'est ce qu'on te dit. Enfin, mais comme tous les trucs de quand t'es gay, on te dit c'est pas naturel, je sais pas quoi. Enfin, il y a un moment où t'as de l'homophobie intégrée, de la
totalement,
transphobie intégrée, tu vois.
Et surtout en ce moment. Enfin,
en ce moment, oui, en plus, ouais.
Trans, en ce moment, c'est
La merde.
Comment tu vis ça, en fait, cette époque où t'as ces espèces de femmes dites féministes qui ne le sont pas, on ne va pas les nommer ici, on ne les nomme jamais, mais qui font beaucoup de lobby, donc aujourd'hui vers l'extrême droite, mais elles en ont fait avec le gouvernement Macron et beaucoup de personnes dans le gouvernement Macron, mais qui sont transphobes totalement, en fait.
Ouvertement.
Comment on réagit ? En fait,
Moi, du coup, j'utilise le médium de l'humour, parce que même pour moi, ça me fait du bien aussi. Je reprends les arguments des transphobes, puis j'en fais des blagues. En fait, c'est tellement facile de faire des blagues sur leurs arguments parce qu'ils sont complètement absurdes. Tu vois, par exemple, moi, l'argument qui m'énerve le plus, c'est l'appel à la biologie. C'est-à-dire, ah, mais dans la nature, c'est pas comme ça. Et tu regardes 2 secondes la nature, tu dis, bah si, en fait. Enfin,
Le
Mérou, oui, c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Mérou, parce qu'il y a vraiment des... Il y a des poissons qui transitionnent, enfin, je veux dire. Mais par rapport à la transphobie qui monte, en fait... Bon, il y a... De manière générale, l'extrême droite qui monte. Donc, la transphobie fait partie du truc. Mais je crois qu'elle monte aussi parce que nous, on monte aussi. Parce qu'il y a une sorte de mouvement parallèle qui se crée où moi, je vois de plus en plus d'humoristes, par exemple, pas concernés, qui font des textes transphobes de ouf. Genre, à la volée. Ah non, mais là, c'est la mode de parler des personnes trans sur scène quand t'es pas concernée, quoi. Et moi, je suis la seule tout à être là. Bonjour, alors moi, je suis concernée. Je te jure, je fais des plateaux des fois où il y a des sketchs sur « Oh, c'est hyper compliqué parce qu'on comprend plus la grammaire. » Il y en a des ouvertement transphobes, hein, avec des gens qui parlent des opérations de transition de genre et de réassignation sexuelle de manière hyper violente. Et c'est hyper violent. Et en même temps, je suis là. Il y a d'autres personnes trans qui montent sur scène que j'essaye d'aider. Enfin, que j'essaye d'aider. C'est pas moi qui les aide, ils s'aident tout seuls, mais où on essaie de leur donner des opportunités avec tout le comedy love, machin et tout. Donc, je pense qu'il y a un mouvement parallèle qui se crée. On nous entend de plus en plus. La transphobie monte, mais on est là et on va continuer. Et moi, ma réponse, c'est de continuer de faire des blagues et tout. Mais après, des fois, ça me paraît un peu absurde. Je pense à ce qui se passe en Russie. Où vraiment là la transidentité est illégale.
Ouais.
Donc ça c'est
hyper... Dans certains États américains aussi.
Dans certains États américains et ça a des conséquences mais évidemment drastiques mais à des points on n'imagine même pas parce qu'en fait une personne trans qui a déjà commencé sa transition en Russie ne peut plus aller chez le médecin du tout. même si elle arrête sa transition parce que c'est trop tard. Enfin, c'est des, en fait, c'est laisser des personnes mourir, quoi. Et des fois, je suis là, bon, moi, je fais des blagues sur mes poils interfessiers, enfin, tu vois, de testostérone. Enfin, je me sens un peu con, mais je me dis.
Non, parce qu'il y a la place, justement. Il y a de la place pour avoir une voix de personne, ouais. De personnalité trans, en fait.
Oui,
il faut
oui,
prendre
mais...
cette place.
Oui, ouais, bien
tu
sûr,
dis,
mais
sur
comment...
des plateaux, tu as des personnes transphobes, le combat, il est là aussi.
Oui, mais c'est chaud de se dire que le combat, il est dans les comédie clubs. Ouais. Je sais qu'il y est, c'est hyper politique, en fait, le stand-up, mais c'est chelou. Et tu vois, ça m'énerve tellement, ce truc de... Ouais, mais le stand-up, c'est sur l'actualité, on peut rire de tout, machin. Mm-hmm. Et je suis là, en fait... Vos blagues ont des conséquences. Moi, quand je blague sur les hétéros, ils peuvent toujours trouver du travail après. Ils peuvent toujours, quand vous réaffirmez des biais transphobes et tout, enfin ça, la conséquence indirecte, c'est qu'il y a des gens qui fucking crèvent parce que c'est genre trop dur. Enfin, tu vois ce que je veux dire ?
Ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Avec les personnes dans le village qui disent, bah nous les trans, voilà, c'est, ouais. C'était l'image qu'on avait d'eux en fait. Mm. C'est ça, et plus il y a une parole qui est véhiculée comme ça, évidemment.
Et des rencontres, quoi. En fait, il faut juste qu'on se rencontre. Mais en fait, il y a des, voilà, des stand-uppers qui sont déjà un peu connus. Bah, ils font ce sketch, bah, les gens, ils ont l'habitude de l'écouter. Donc, ils vont dire, ah, c'est OK d'en rire. Et en fait, tu vois...
Putain, je ne savais pas, tu vois. Après, comme si, tu disais, si, moi, ouais. je fais pas beaucoup... Enfin, de toute façon, je ne vais pas à un spectacle d'hétéro. En gros,
oui, c'est souvent là que ça se passe.
Voilà, j'y vais pas parce que je sais que ça va être à minima misogyne. Mmh. Et du coup, si c'est misogyne, ça va être LGBT-phobe, transphobe.
Bah, oui,
c'est
oui,
tout
oui.
ça. Et...
C'est un package.
Et du coup, est-ce que toi, c'était déjà arrivé de faire un plateau et d'entendre des blagues transphobes ?
Ah ouais, beaucoup. Ouais, ouais.
Et tu vas quand même, tu fais le plateau ?
Ouais, je fais le plateau quand même parce que je me dis justement, c'est le moment où il faut pas ouais. que je lâche. Mais c'est dur d'entendre... Une fois, je suis passée avant la personne, les gens riaient de ouf à mes blagues, et après, l'autre personne passe, ils rigolent de ouf, et je me dis, mais en fait, à quoi vous riez quand j'étais moi sur scène, quoi ? Est-ce que vous riez avec moi ou de moi et à... Tu vois
ouais.
Et en fait, ouais, ça fout la haine. Et souvent, les humoristes, ils ont l'impression de ne pas être transphobes. Ils sont là, mais non, c'est juste mon avis. Genre, bah, ton avis...
Tu leur dis, du coup, après ?
Il y en a, j'ose pas. Il y en a un en particulier où j'ai essayé de communiquer avec lui, mais il m'a tout de suite répondu que ah bah je voulais bien que vous réagissiez. Enfin,
en fait, c'est
juste pour faire le buzz, pour faire des trucs. Mais c'est hyper violent. Enfin, c'était des blagues. C'était hyper violent. J'oserais même pas les redire. Mmh. Mais c'est même pas des blagues. En fait, c'est de la transphobie et les gens rigolent parce qu'on a pris l'habitude de rigoler à tout ça, quoi. Il suffit de dire hop, il a le mec, il a voulu devenir une meuf et les gens sont morts de rire. Et tu dis bon, enfin, calmez-vous. Tu vois. Du coup, ouais, ça m'arrive vraiment beaucoup en ce moment, vachement.
Putain.
Ouais. Ouais, c'est pas facile des fois.
Ah non, je pensais pas, tu vois. Je pensais
ouais.
pas.
Ouais. Pas partout, hein, mais. Ouais. Et c'est très frustrant parce que la communication, elle est difficile avec ces personnes qui voient ça comme de l'humour sur l'actualité, quoi. Mmh. Et nous, c'est nos vies.
Oui, c'est le sujet, voilà. Mmh. C'est un sujet d'actualité que tu le résumes très bien. C'est un sujet
ouais,
d'actualité, sauf que c'est ta vie aussi.
Ouais.
Difficile de réenchaîner mes questions.
De ouf. Après la transphobie.
Et oui, du coup, sur ma question, est-ce que la Mamec, tu m'as dit que tu en parlais déjà, évidemment,
ouais.
t'en parlais. Alors, sur la fin, et c'est vrai que la fin de ton spectacle, alors, moi, j'ai, comme je t'ai dit en te recevant tout à l'heure, j'ai beaucoup ri, j'ai des larmes aussi, mais alors vraiment, la fin, j'ai des larmes aussi, mais c'est pas du rire.
Okay.
Tu le cueilles sur la fin, je trouve.
Trop bien. Bah, c'est pas que c'était le but, c'est que. C'est le moment où je me suis un peu lâchée en me disant « Ok, je vais dire les choses que je pense vraiment. » C'est, je crois, le moment le plus personnel de mon spectacle parce que je dis une phrase que je ne dirais pas ici parce qu'elle m'effraie trop, mais qui... Moi, j'ai eu peur de le dire pendant hyper longtemps sur mon rapport à être une femme, en fait. Et du coup, j'étais étonnée que ça touche autant les gens, mais je vois que ça touche aussi.
Bah c'est
ouais.
une jolie fin de spectacle.
Ok, trop bien.
C'est une jolie fin de spectacle parce que pour le coup, et ça, c'est quand même, j'ai l'impression quand même, merci les humoristes queer et LGBTQIA+, parce qu'il y a du rire, mais il y a du rire, il y a de la politique, et il y a aussi des belles émotions, en fait. On peut tous comprendre.
Ouais.
Et je pense, désolé les hétéros, mais on peut davantage comprendre que... J'aime bien le dire, ça. Et du coup, on va finir cette question sur la même. Comme entre la fin de ta saison, tu as la Mamac et tu reprends ton spectacle en fin septembre,
ouais.
Tu vas faire rire sur ta Mamac ?
Bien sûr. Ah ouais, j'ai plein de trucs à dire. Moi, ça me fait mourir de rire. Enfin, de toute façon, les oppressions me font rire, apparemment. Donc, pas pour de vrai, mais dans mon spectacle. En fait, moi, j'aime bien rendre tous les trucs absurdes, quoi. C'est ça qui me fait kiffer. L'humour, ça permet vraiment de montrer l'absurdité dans les propos oppressifs, quoi. Enfin, montrer que c'est pas logique, ce que vous dites, quoi. Si on y réfléchit deux secondes. Et du coup, je vais parler. Tu vois, je réponds même pas à la question. Ouais, je suis en train de. Je suis en grosse refonte du spectacle. Alors, je pense que à l'œil nu, ça va pas forcément se voir, mais je veux vraiment. Là, je retravaille pas mal. Du coup, ouais, j'ai un metteur en scène qui s'appelle Amiel Mokad, qui est un ami de longue date et qui vraiment m'accompagne depuis le début dans mon écriture, juste être là, des fois quand je suis en insécurité. Et puis aussi dans la direction artistique de mes photos, construire mon identité visuelle. Quoi.
Ta dernière photo sur Instagram, c'est lui ?
Ouais, il a fait la direction artistique. La photographe, du coup, c'est une meuf qui s'appelle Saadia Hamdine, mais ouais, c'est lui qui a fait la DA. Ouais, je l'adore, c'est trop bien.
Elle est magnifique.
Franchement, j'étais trop contente. En plus, ça a tombé à pic avec Barbie et tout. Ouais. Donc, ouais, c'est lui qui s'occupe de tout ça. Il m'aide à me recentrer. Quand je suis perdue, il me dit « Non, souviens-toi, tu voulais faire ça. » Et là, je commence à travailler avec une meuf qui s'appelle Sandra Calderan, qui est actrice, performatrice, mise en scène de trucs mais queer que j'adore. Vraiment, le cirque queer, là, il joue... Enfin, tu vois, des trucs de performance, plutôt. Mm. Et on va travailler ensemble. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que je suis en refonte de mon spectacle et qu'on va faire des résidences ensemble. Donc là, je vais vraiment tout retravailler, d'accord, tout rebâcher, tout voir, rajouter cette nouvelle expérience de la mamectomie. Mm. Et du coup, ouais, je vais en parler et voilà. Et le spectacle va changer en même temps que moi, quoi.
C'est cool. Alors, on arrive
C'était
à...
hyper long, ouais, désolé.
Non, pas du tout. On arrive à la fin et moi, il fallait quand même que je t'avoue quelque chose. J'aimerais qu'on finisse avec les chinos beige. Alors déjà, beige, tu le dis beige un peu comme...
Je dis beige, oui, beige. Je ne sais pas pourquoi.
Avec un accent où au début, j'étais genre, mais il est bruxellois, il est suisse.
Tu sais l'histoire de ça ? Je te l'avais dit ou pas ?
Non.
J'ai un accent belge des fois, sur scène en particulier, parce que quand j'ai transitionné et que ma voix a changé, je n'arrivais pas à la gérer autrement qu'en faisant l'accent belge. Et j'ai joué en Belgique pendant que ma voix changeait en
c'est
plus.
C'est une transition.
J'ai fait une transition, voilà, c'est ça. From F to Belge. Vraiment, c'est ça. Et du coup, j'ai une mémoire auditive, j'ai transition... Enfin, vraiment, je...
C'est vrai.
J'arrivais pas à articuler,
c'est
en fait.
C'est un bel accent, hein,
mais... Oui, mais c'est absurde. Pourquoi ?
Ah, moi, ça participe quand même au rire, parce que du coup, j'ai une c'est vrai. Beige. Hein. J'ai des beige.
C'est vrai.
Et du coup, alors, petite expérience personnelle, moi, j'ai un chino beige qui me fait un cul d'enfer.
Ok, j'accepte.
Mais il est, bah non, mais il est beige. Et du coup, parfois, je me dis, vas-y, sors-le. Tu vois, tu sais pas, t'as envie de te sentir beau et tout. Tu dis, vas-y, j'ai fait des squats hier. Je mets mon chino beige. Et je t'assure, je le sors, je le regarde, je te vois. Et je me dis, je peux pas. Faut que je le passe en teinturerie, en fait.
Mais non, mais ça, les gens vont hyper loin. Tu sais que je reçois des photos de gens qui sont là, je peux plus mettre ça. Il y avait une meuf, elle est venue voir mon spectacle, elle s'habillait que en nuance de beige avant mon spectacle. Elle m'a envoyé une photo, elle m'a dit, tu m'as détruit. Mais en fait,
t'as conscience que t'as changé la vie des gens.
Je pense que les gens. Mais en fait, non, moi, ce qui m'énerve, c'est les mecs hétéros blancs qui mettent des chinos beige et qui surtout ils les mettent toujours mal, tu vois.
Enfin, s'ils savaient s'habiller.
Oui, bon, ça c'est une autre question. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est plutôt quand t'as tous les privilèges et que tu mets ça. C'est ça qui m'énerve. Donc, tu n'es pas concerné, t'inquiète pas. Ça m'énerve vraiment. Je crois que c'est le sketch le plus honnête de mon spectacle.
C'est vrai.
À chaque fois que je le fais, je m'énerve. Mais c'est le plus ancien. C'est mon texte le plus ancien, ouais.
C'est vrai ?
Ouais, ouais. Bah, c'était un des trucs que j'avais écrit au tout début, ouais.
C'est tellement vrai.
Ouais.
C'est tellement vrai.
Ah, mais c'est trop bien que ça fonctionne, quoi.
Ah, ça marche de... Et du coup, j'essaie de...
Pardon.
De rentrer parce que du coup, ce truc vraiment du chino beige, je ne pouvais plus. Évidemment, alors j'étais avec mon mec et deux couples d'amis gays. Et d'un coup, j'étais là genre...
T'as regardé.
Ils sont en beige, il y en a un qui est en Bermuda beige.
Oui, c'est l'été en plus, des fois, il y a les Bermudas.
C'était l'été. C'est peut-être pire le Bermuda, non. Ok.
En fait...
C'est un silence qui en dit long. Hein.
Mais non, mais je sais pas, cet été, j'étais à Palavas-les-Flots et il y avait tellement de Bermudas. Je me suis noyée dans les Bermudas. Mais pour le coup, tout... enfin, je sais pas. Tu sais, les familles, Cato, genre, ils ont chacune une couleur de Bermuda. On dirait que c'est pour se reconnaître comme les pions, tu sais, dans les jeux. Bref.
Du coup, on arrive vraiment à la fin de l'émission. Et c'est quoi tes projets sur 2023-2024?
Du coup, c'est travailler le spectacle, continuer à le faire à la nouvelle scène. Plein de surprises, d'autres dates que je ne peux pas trop dire. Je vais être en tournée aussi. Il y a plein de choses cool qui arrivent et qui se passent. Mais en fait, c'est compliqué, je ne peux pas trop dire. Quoi.
D'accord.
Tant que ce n'est pas concret. Mais je fais beaucoup de... Enfin, je commence à faire quelques plateaux avec Kian Kojandi.
Ah, c'est bien.
Et c'est trop cool. Il est trop sympa. On s'est rencontrés sur un plateau et depuis avec Serena Yari, qui est une autre scène de Peuse, on se retrouve un peu à trois pour faire des plateaux. Et c'est trop bien. Enfin, il me soutient beaucoup dans mon travail. Et je pense que ça va ouvrir des trucs chouettes.
Ah, c'est cool.
Ouais.
Oui, donc tu parlais d'une tournée. Il y a Lille, Genève, Marseille, Toulouse, Bruxelles, Bayonne, Avignon.
Exactement.
Tous les jeudis, sinon à la Nouvelle Scène à Paris.
À 19h30.
Et pour connaître toute l'actualité, les choses qui vont arriver, on ne peut pas tout dire.
Non, on ne peut pas tout dire. Attends, sinon, il y a aussi mon plateau à la mutinerie.
Ah,
j'en ai pas parlé.
Mutinerie, lieu queer.
Lieu queer, historiquement queer, lieu transpé des Gouines. C'est noté sur la carte, ouais. La petite carte de visite. Et du coup, c'est un plateau qui s'appelle la Mutup. C'est par et pour les queers. C'est ouvertement communautaire. Le lieu est en non-mixité, sans mixis hétéro. C'est totalement assumé pour cette soirée-là, parce qu'il y a énormément de monde et qu'on veut rire entre nous. Et ça reprend le 13 novembre et ce sera une fois tous les deux mois.
Ah, cool.
Ouais.
Et donc, pour toutes tes actualités, sinon, on te suit sur Instagram.
C'est ça, Lou Trottignon.
Bah, super, avec ouais. Une super belle photo.
Oui.
Bah, merci, je te remercie d'être venu. Je te remercie d'être le parrain de cette saison. Je ne te l'avais pas dit avant, mais voilà, c'est fait
que tu es le parrain. Merci à toi, c'était trop
merci.
Bien.
Merci, à très vite. Merci beaucoup.
Ciao.